autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour remettre en question l'objet le plus simple et le plus génial qui soit, la roue. Retour sur une invention qui a changé nos vies et la face du monde, en influençant toute l'histoire de l'humanité, en accélérant son développement jusqu'à l'outrance, car c'est bien la roue qui fait tourner le monde aujourd'hui de plus en plus vite, et pas toujours dans le bon sens. Et s'il était temps de nous arrêter sur l'histoire millénaire de cet objet emblématique, et omniprésent. Quand, où et comment l'homme a-t-il inventé la roue? Et surtout, pourquoi faire? Pourquoi certaines civilisations, les Aztèques notamment, ne s'en sont jamais servis alors qu'ils la connaissaient? Un autre monde aurait-il été possible sans la roue ou sur deux roues? Et si plus qu'une histoire des techniques, l'histoire de la maîtrise de la roue était une histoire politique? Voilà ce que révèle l'essai passionnant de Raphaël Meltz, formidable empêcheur de penser en rond que nous avions reçu le 26 mai dernier, autour de son histoire politique de la roue, édité chez Vuibert, un essai qui a le mérite de poser toutes les bonnes questions sur notre passé, notre présent et le futur que nous nous souhaitons. Voilà pourquoi nous vous proposons de réécouter cet entretien autour de la question « Pourquoi réinventer la roue ?» Bienvenue en Roue Libre.
Est-il déjà un essieu cassé et le cercle des roues ballotte? Ces roues, on ne les a jamais graissées, alors elles grincent. Elles grincent.
Et oui, elle grince dans la voix de Louis Jouvet, les roues de la charrette fantôme. Merci pour cet instant cinéphile, Raphaël Meltz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous par téléphone depuis votre jardin à la campagne. Si on entend les petits oiseaux, c'est tant mieux pour partager cette histoire politique de la roue que vous avez publiée aux éditions Vuibert, un essai précieux par les temps qui courent, inspirant et totalement inédit. C'est la première fois, hein, je crois, que la roue, cet objet incontournable du développement, du progrès, mais aussi de la fuite en avant de l'humanité, est pensée de cette manière-là, globale, sur le temps long. Ce n'est donc pas une histoire des techniques que vous avez voulu faire, mais bien une histoire politique de la roue. Alors pourquoi et comment l'écrivain et journaliste que vous êtes, Raphaël Meltz, a-t-il décidé de s'atteler, si j'ose dire, à une tâche pareille, à refaire toute l'histoire politique donc de la roue? L'idée vous est venue sur votre vélo, sur votre deux roues en pédalant?
Alors, ça aurait pu, parce que je suis en effet un adepte du vélo, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est surtout parce que ça fait partie de ces sujets, vous savez, comme il y en a, dont on a envie de savoir, ou en tout cas dont moi j'ai envie de savoir d'où et comment ils viennent. La roue, je me suis rendu compte un jour, je ne savais pas finalement qui avait inventé la roue et quand. Et donc je me suis dit, bon, ben, je vais un petit peu regarder ce qui a été fait sur le sujet. Et en fait, il s'est avéré, ce qui m'a extrêmement surpris, qu'il n'y avait aucun livre en français. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Le dernier livre sur la roue qui soit sorti en français date d'il y a 120 ans. C'était l'année 1900. Et c'était un livre qui s'appelait Essai paléogéographique. Là, pour le coup, on était dans l'histoire technique extrêmement détaillée. Et c'est un livre qui est complètement obsolète parce qu'en réalité, tout au long du XXe siècle, on a fait énormément de découvertes sur l'histoire de la roue. Et par ailleurs, si vous voulez, en faisant cette histoire d'abord technique, je me suis rendu compte, comme vous l'avez très bien dit, que je ne voulais pas m'arrêter à cela. Je ne voulais pas simplement raconter l'histoire d'un objet, d'une technologie, mais je voulais aussi raconter les enjeux qui étaient posés par cet objet et la façon dont notre société, au cours des quelques millénaires qui ont connu la roue, nos sociétés ont évolué.
Et justement, quand a été inventée la roue? C'est déjà difficile de le dire exactement quand et où l'homme a inventé la roue. Un de vos chapitres, hein, dans ce livre, l'histoire politique de la roue, s'intitule « L'histoire de la roue commence-t-elle à Sumer ?» Donc au Proche-Orient, il y a plusieurs pistes, mais rien n'est tout à fait sûr.
Voilà, alors ce que j'essaye de faire au début de mon livre, déjà, c'est un peu un tri dans un peu un magma, c'est un peu méchant, mais en tout cas dans une somme de débats, de contre-débats, de vérité et de contre-vérité sur ce qu'on sait exactement. Et en effet, beaucoup d'historiens ont tendance à dire, bah voilà, la roue c'est Sumer 3500 avant notre ère, c'est-à-dire donc il y a 5500 ans. Donc j'ai voulu regarder ça de très près et j'ai plongé dans un monde que fait mal, hein, il faut le dire, c'est-à-dire le monde de l'archéologie, et notamment à la fois en Mésopotamie et en Europe, donc au 4e millénaire avant notre ère, puisque évidemment c'est le 4e millénaire, si on parle de moins 3500.
Oui.
Et en fait, c'est intéressant parce que, comme je vous le disais, le 20e siècle a produit, on va dire, deux grandes découvertes. D'abord, plutôt dans les années 1930, là c'est en effet en Mésopotamie qu'on découvre donc la fameuse civilisation de Uruk, qui est donc cette civilisation un peu phare, on va dire, de ce qu'on appelle Sumer, de la Mésopotamie donc du 4e millénaire. Et donc on découvre des tablettes, hein, des tablettes d'argile, qui d'ailleurs correspondent, c'est quand même pas complètement anodin de le dire, à l'invention de l'écriture. C'est les premières traces écrites qu'on a de l'histoire de l'humanité. Il se trouve que dans ces premières traces écrites qu'on a, on trouve aussi les premières traces de roues, car on voit des dessins de véhicules avec des roues. Donc quand je dis des dessins, c'est des petits schémas, et c'est des petits schémas parce que on parle de comptabilité, hein. C'est vraiment des tablettes qui servent à faire de la compta.
C'est ça, ce sont les premiers échanges commerciaux et de comptabilité qui ont fait les premières écritures, hein.
Exactement. Donc ça, c'est évidemment un peu décevant quand on imagine ce que pourrait être l'invention de l'écriture. On se dit, on a inventé l'écriture pour écrire des poèmes ou des lettres d'amour.
Ben non,
pas du tout. C'était bien les tableaux Excel de l'époque, donc c'est forcément un peu triste. Mais voilà. Donc évidemment, l'homme s'est dit, si on a inventé l'écriture et que c'est là aussi la première représentation de la roue, c'est forcément que la roue a été inventée là-bas à Sumer.
C'est pas sûr.
C'est-à-dire que voilà, pendant une quarantaine d'années, c'était une donnée qu'on se passait, et puis aussi on avait daté, on va dire, de façon un petit peu grossière, autour de moins 3500 ces tablettes. Et en vérité, donc il y a deux choses qui se passent dans la seconde partie du XXe siècle. D'abord, on invente le carbone 14, enfin le carbone 14 on l'invente pas, mais la méthode de datation par le carbone 14, qui nous permet de savoir exactement de quand datent des objets qui ont des résidus organiques. Donc ça nous permet tout d'un coup, à partir des années 60-70, de dater de façon très précise des choses qui jusqu'à présent étaient dans des grandes fourchettes. Et il s'avère que quand on date, donc non pas ces tablettes elles-mêmes, mais les objets qui étaient à côté de ces tablettes quand on les a découvertes, on se rend compte qu'en fait elles datent plutôt de moins 3150. Pour le dire vite, évidemment, c'est un petit peu plus précis que ça. Mm-hmm. Mais en gros, il y a quand même 350 années qui se seraient passées après 3500, moins 3500. Et par ailleurs, si vous voulez, c'est parallèle, on découvre cette fois en Pologne, dans un tout petit village en Pologne, un vase. Là encore, évidemment, j'ai oublié de le signaler, mais ce ne sont pas des roues, hein, qu'on trouve, ce sont des représentations de roues, parce que l'objet roue lui-même, il a disparu. C'est-à-dire que l'objet roue qui était en bois, on en parlera peut-être plus tard, n'a pas survécu autant, alors que ce qui a survécu, c'est la poterie. La poterie
c'est
gravée,
donc,
la poterie dans laquelle on faisait des
dessins. Donc c'est déjà une reproduction de la roue, qui voilà. Probablement existait peut-être déjà depuis bien longtemps.
Voilà, alors ça ne nous permet pas justement de dater plus tôt, mais en tout cas ça nous permet d'avoir des repères en disant à tel endroit la roue existait forcément avant cette date-là, puisqu'elle est représentée à cette date-là. Et en effet, ce fameux vase polonais, lui, il est daté de moins 3500.
On remonte systématiquement. On va faire un retour sur les origines de cette découverte, parce que la ligne, on ne va pas vous perdre, on va vous retrouver tout de suite, Raphaël Meltz. Un petit retour donc sur les origines de cette découverte, la roue qui va tout de même changer la face du monde, avec un premier éclairage. C'est celui du célèbre paléontologue Yves Coppens, qui remonte en roue libre lui aussi dans notre préhistoire commune, depuis la vallée de l'Omo en Éthiopie jusque sur le littoral breton. On l'écoute.
La roue, c'est formidable. C'est une découverte fantastique. Elle n'a que 6000 ans, hein, donc c'est pas considérable. 6000 ans par rapport, quand même, il faut mettre cette date en rapport avec les autres, par rapport aux 3 millions d'années de l'existence du genre humain et de la culture. Donc c'est peu. Et cette roue est d'autant plus géniale qu'elle n'existe pas dans la nature, c'est-à-dire qu'on copie quelquefois la nature à juste raison, on apprend beaucoup de choses grâce à la nature, mais la roue, elle, n'existait pas, donc il a fallu l'inventer, et l'inventer, c'est merveilleux, enfin, il suffit de regarder autour de soi, elle est partout. Alors, qu'est-ce que ça aurait changé ? Sûrement beaucoup de choses, ne serait-ce que dans le transport, quoi. Par exemple, pour un menhir que l'on plante, moi je suis bien au courant de ça parce que je m'occupe aussi des grands menhirs de Bretagne pour tenter de les faire entrer au patrimoine mondial. Le roulage, c'est fait naturellement sur des billots de bois. Donc finalement, on peut avoir compris le principe de la roue en faisant rouler des choses naturelles comme les troncs d'arbres sous ces pierres immenses de quelquefois plusieurs dizaines de tonnes. et puis arriver à les planter à plusieurs dizaines de kilomètres de l'endroit d'où ils sont sortis d'une carrière.
Donc se servir de la roue sans même l'avoir inventée, c'est ça, hein.
Les plus vieux monuments mégalithiques de Bretagne, c'est autour de 7000. Donc ça précède un peu la roue. Et je pense que le fait de rouler, entre guillemets, ces grands monuments et de les planter, ben c'est une des occasions qui a pu faire comprendre à l'homme que rouler, c'était finalement une solution de déplacement de tout.
Raphaël Mel, j'imagine que vous voulez réagir à cet éclairage préhistorique du paléontologue Yves Coppens. Ça semble logique, hein, ce qu'il dit. Et pourtant, c'est pas comme ça que s'est inventée la roue, c'est ça?
Le rouleau, c'est passionnant et on va en parler, mais j'aimerais juste revenir même sur ce qu'il dit au début, parce qu'il dit aussi deux autres choses qui sont très très intéressantes. La première chose, il dit, c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, parce que moi je l'ai pas souligné au début, il a raison de le dire, c'est une poussière, c'est 5500 ou 6000 ans, ramené en effet aux 3 millions, et surtout ramené à la capacité qu'a eu l'homme de faire des outils, parce que les premiers outils, vous savez qu'on a découvert là il y a quelques années, des outils qui datent d'il y a 3,3 millions d'années, c'est-à-dire des outils évidemment très simples, très frustes, mais des petits outils en pierre. Donc il faut penser que pendant 3 millions d'années, l'homme a quand même pensé à l'outil, a pensé à bricoler, on va dire, et il met quand même 3 millions d'années.
Et a vécu sans la roue, hein. Voilà, c'est ça.
Voilà, et par exemple, si on pense à Lascaux, la grotte Chauvet, toutes ces représentations artistiques extrêmement déjà puissantes, fortes, qui nous semblent si proches de nous, et ben en effet, ce sont des mondes où on est bien, bien, bien avant, on est 15 000 ans avant l'invention de la roue. Donc il y a quelque chose d'assez vertigineux de se dire qu'en effet, l'homme, pendant si longtemps, s'en est passé, et comme on le verra plus tard, il s'en est passé même dans des civilisations bien longtemps après l'invention de la roue.
Bien longtemps après, même dans des civilisations qui le connaissaient, on y reviendra, parce qu'effectivement, notamment du côté de l'Amérique précolombienne, on connaissait la roue. Voilà. Vous reviendrez là-dessus, on la voit dans des jouets pour enfants et on s'en servait pas. Donc on a pu vivre sans la roue très très longtemps, hein, bien plus longtemps qu'avec. Hein.
On pourrait presque vivre encore sans. Mais alors maintenant revenons sur le rouleau. Parce qu'en effet, c'est une thèse qui a longtemps, on va dire, prévalu, qui était de dire, c'est-à-dire que l'homme a d'abord inventé le rouleau, puis ensuite la roue. Et en réalité, on s'aperçoit, je prends un peu de temps dans le livre pour essayer de démonter cette thèse. Alors évidemment, comme je le dis, et c'est toujours important de le rappeler, hein, on n'aura jamais de certitude à ce sujet, on n'aura jamais de cliché photographique
de la première roue,
hein. D'archives écrites de quelqu'un disant « Ah voilà, ça y est, j'ai inventé la roue !» Donc voilà, tout est spéculatif. Mais ce qui est sûr, c'est que le transport par rouleau semble en fait assez étonnamment ultérieur. Alors évidemment, là, il nous dit les menhirs, sauf que les menhirs, personne n'est là non plus pour nous dire qu'on les ait sur des rouleaux, parce qu'il y a bien, bien d'autres façons de faire avancer les choses, et notamment, on peut simplement faire glisser les choses au sol, qui est quand même l'idée de base, on va dire, du mouvement, c'est le glissement avant même le rouleau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on sait, c'est que les premières représentations, là je parle de nouveau de représentations, de transport par rouleau, sont bien postérieures à la roue, c'est-à-dire qu'on va les trouver plutôt aux alentours du premier millénaire avant notre ère, c'est-à-dire presque 2000 ans après les représentations des roues.
Donc la roue aurait pu être inventée, entre guillemets, bien avant qu'on se serve de rouleau pour rouler.
Tout à fait, et je prends l'exemple assez incroyable de Vitruve, donc, qui est un architecte donc romain du 1er siècle avant notre ère, donc c'est vraiment autour de l'an 0 pour aller vite, et si vous voulez, il raconte l'invention justement du roulage. Il dit, ben voilà, on avait fait des grandes colonnes pour je ne sais plus quel temple, et donc il fallait les amener sur place, et donc c'était compliqué de ces colonnes, mais on a eu une idée, en fait, on a fait une espèce de petit objet autour de ces colonnes, et puis on a planté deux petites tiges de fer de part et d'autre, puis on a tiré, et hop, ces colonnes se sont mises à rouler. Donc en effet, c'est le principe du roulement, et non pas de la roue. Alors on se dit, ben voilà, c'est génial, il nous raconte l'invention du roulement, sauf qu'un petit peu plus tard dans le texte, il dit oui, en fait on a fait ça parce que c'était beaucoup trop lourd pour être mis sur des chariots. Donc en fait, on invente le rouleau, alors on invente l'idée du rouleau, on va dire, alors qu'en fait on a déjà la roue. Donc si vous voulez, il y a tout un faisceau d'indices, et puis le dernier, c'est aussi de dire que le tronc d'arbre, si vous voulez, qui semble être le rouleau de base, hein, le tronc d'arbre, on se dit, bah, évidemment, on a d'abord le tronc d'arbre qui roule, et puis ensuite on va le couper en tranches, et on va faire une roue, comme ça, comme quand on coupe une bûche de Noël, vous voyez, la roue va venir du rouleau. Et en fait, ça, c'est une certitude qu'on a, c'est que toutes les roues les plus anciennes qu'on ait trouvées sont faites non pas dans ce sens-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle en bois de travers, mais en bois de fil, c'est-à-dire qu'on va couper, on va débiter une planche dans le tronc d'arbre, et de cette planche, on va faire une roue. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, si on coupait une roue comme on coupe comme ça une tranche de gâteau, c'est pas du tout assez solide pour les chocs latéraux, c'est-à-dire que si votre roue est cognée tout d'un coup sur le côté, elle se casse, parce qu'en fait, ce bois-là n'a pas de solidité, si vous voulez, dans ce sens-là. Donc en fait, il faut couper une planche. Donc là encore, ça montre bien que l'esprit humain n'a pas adapté le roulement, parce que s'il l'avait adapté, il serait dit « Ah ben en fait, on a ce gros truc, mais si on le faisait plus fin, on aurait une roue ». Non, en fait, pour inventer la roue, il faut penser à faire la planche, et c'est seulement une fois qu'on a la planche qu'on peut faire la roue.
Autour de la question justement, comment s'est inventée la roue, et pourquoi d'ailleurs la réinventer aujourd'hui? Allez, je vous pose tout de suite une nouvelle question, mais elle est soulevée par un autre empêcheur de penser en rond, l'astrophysicien Roland Lehoucq, qui était récemment notre invité.
Alors oui, la question que j'aimerais poser à Raphaël Melst, c'est de savoir si on peut imaginer une raison pour laquelle la nature n'a pas spontanément inventé la roue.
Raphaël Melst, est-il possible de répondre à cette malicieuse question, du moins malicieux, oui. Roland Lehoucq?
C'est malicieux, parce que la nature n'est pas là quand même pour produire toutes les idées que l'homme va inventer. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'inventions, on va dire, humaines qui n'étaient pas dans la nature. Si on pense au téléphone, par exemple, on peut dire que c'était pas directement dans la nature. Mais en effet, ce qui en revanche, là où il a raison, c'est que ça peut expliquer l'énorme retard, on va dire, qu'a pris l'homme, on va dire, pour inventer la roue, parce qu'en effet, il ne la voyait nulle part. Mm-hmm. Il n'avait aucun repère, et donc évidemment l'objet roulant, il est dans la nature, ça, il n'y a pas de doute, hein. Ça peut être la pomme qui tombe et sur une pente et qui va se mettre à rouler, ou ces fameuses grandes boules, ces grandes sphères, vous savez, qu'il y a dans certains états américains, qui sont des branchages, qui se sont, avec le vent, qui se mettent à rouler justement comme une sphère. À chaque fois, ce sont des sphères, et il y a aussi le fameux scarabée égyptien, en fait, qui plante deux petites brindilles, on va dire, dans une bouse de vache qu'il a transformée en petite sphère et qui fait une roue. Donc, une roue sphérique.
Le scarabée fait une roue, mais c'est pas une roue.
Voilà, c'est toute l'ambiguïté, c'est qu'à chaque fois, c'est la sphère. Et mine de rien, pour passer de la sphère à la roue, il faut penser le plat, et il faut surtout penser ce truc incroyable, c'est qu'une roue tout seul, ça ne marche pas. Parce que si vous avez une roue, vous pouvez rien faire avec une roue. Il vous faut une deuxième roue, et puis un essieu, et puis encore quelque chose, parce que deux roues sur un essieu, ça marche toujours pas. Donc soit vous faites une brouette, soit vous faites un chariot à quatre roues. Et en fait, le premier véhicule de l'histoire humaine, c'est le chariot à quatre roues. C'est pas deux roues, c'est quatre. Parce qu'en fait, comme pour une table, il faut quatre pieds, eh bien, pour un chariot, pour un véhicule à roues, il faut quatre roues pour que ça tienne tout seul, sans qu'on ait besoin de le tenir.
Et donc il faut que ce soit l'homme qui l'invente. Enfin voilà, il faut l'inventer, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment une invention.
Voilà, alors je reprends l'expression de Leroy Gourhan, il faut un ensemble technique, c'est-à-dire qu'il faut toute une série de dispositions mentales que l'homme a déjà affronté. C'est-à-dire, en effet, la question du mouvement rotatif, la question de l'équilibre, la question de la transmission des éléments les uns par rapport aux autres. Et une fois qu'on a tout ça, on se dit « Ah, mais tiens, en fait, c'est vrai qu'on peut faire un véhicule. » C'est même pas la roue qu'on invente, c'est le chariot, en fait.
Ah, c'est le véhicule qu'on invente,
oui,
hein, le véhicule pour transporter.
Parce que la roue elle-même, elle ne fait rien. La roue ne fait rien, alors que le chariot, lui, eh ben, le chariot, c'est le véhicule, c'est enfin le mouvement, et c'est le début du transport.
Et le début du transport, on va y venir, hein, ça joue évidemment un grand rôle. En même temps, vous avez déjà répondu, mais pas tout à fait, à une question soulevée par un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux depuis Montréal. Robio Bakwa Hicham, il nous demande finalement si c'est à cause de la roue que l'humain tourne en rond. Cher Raphaël, pouvez-vous lui répondre ?
Eh ben, je vais répondre que oui, je pense que la roue, et c'est ce que je développe vraiment dans une grande partie de mon livre, je pense que la roue nous a amené dans un mouvement, justement, qui est peut-être un mouvement qu'il faut interroger et qu'il faut peut-être à un moment donné arrêter, et il faut poser la question de la nécessité, justement, du progrès technique, du progrès technologique et de l'avancée technique, c'est-à-dire toujours plus de moyens, mais pour aller où ?
Et c'est ça, et toujours plus vite, mais pour aller où? En tout cas, comme le dit très joliment notre auditeur, c'est grâce à cette roue qu'on peut faire le tour de la question. On continue donc de s'interroger ensemble sur notre monde, à remettre en question le progrès, et sur notre monde en roue libre, à l'écoute d'un blues que vous nous faites rouler entre les deux oreilles, Raphaël Meltz, Like a Rolling Stones, Muddy Waters sur RFI.
Autour de la question sur RFI.
Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Oh well, he's a.
Rolling Stone, le blues de Muddy Waters qui grésille juste comme on aime et qui a inspiré le nom évidemment d'un des groupes les plus célèbres du 20e et même 21e siècle. Encore une histoire qui roule et qui tourne autour de la question pourquoi réinventer la roue. En votre compagnie, Raphaël Meltz, vous êtes l'auteur d'une histoire politique de la roue. On l'a dit, hein, la roue a changé le monde, elle a orienté son développement dans un sens rapide, toujours plus, qui n'est peut-être pas le meilleur, alors qu'on aurait peut-être pu faire autrement sans la roue. Vous citez, Raphaël, dans ce livre, l'exemple des Aztèques et de tout le continent précolombien, un continent sans la roue, alors que les Aztèques étaient particulièrement évolués et qu'ils la connaissaient, la roue. On en a trouvé la trace sur les jeux à roulettes pour enfants.
Voilà, alors il faut raconter l'histoire chronologiquement, parce que c'est ça qui est le plus parlant. C'est-à-dire qu'en 1519, quand les Espagnols débarquent au Mexique et qu'ils conquièrent le pays, donc en 2 ans, ils conquièrent un pays qui n'a pas la roue, qui ne connaît pas d'ailleurs non plus le cheval, et qui est un pays, comme je le raconte dans mon livre, qui est magnificent, c'est-à-dire que c'est incroyable, c'est la plus belle ville du monde selon Cortés et Diaz del Castillo, qui tous les deux ont écrit en fait ce qu'ils ont vu et qui ont écrit, dans le cas de Cortés, il écrit ça à son empereur, il dit « mais je n'ai jamais vu quelque chose de comparable ». Il est stupéfait par la beauté des temples, la grandeur architecturale, hein. C'est sans doute la plus grande ville du monde à l'époque.
Donc l'évolution, hein, de cette l'évolution de ces sociétés.
Voilà, donc c'est une société qui a un degré de raffinement incroyable. Les Espagnols arrivent, donc conquièrent le pays, détruisent entièrement cette ville. Et notamment détruisent le fameux système qu'on appelle les Chinampas, c'est-à-dire c'est une ville qui était construite sur l'eau, puisque c'était une ville lacustre, et où dont les Aztèques avaient très bien compris comment, donc ils faisaient des espèces de jardins flottants qui permettaient d'absorber l'eau et qui en fait montaient en fonction de la montée des eaux. Donc quand il y avait beaucoup de pluie, c'est un pays tropical, lorsqu'il pleut, en fait le niveau de la ville montait, enfin tout ça était extrêmement bien pensé, et évidemment les Espagnols cassent tout ça, ils se retrouvent avec une cuvette qu'ils essayent d'assécher, mais c'est impossible d'assécher une cuvette. Et donc, en fait, il y a des inondations. Et aujourd'hui encore, la ville de Mexico est une ville qui souffre énormément des grandes pluies. Et la ville peut être complètement paralysée, si vous voulez, quand il y a des grandes pluies au moment de la saison des pluies. Bon, alors, on peut se dire quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils nous racontent ça ? Parce que, en effet, en 1880, donc trois siècles plus tard, un explorateur français, cette fois Désiré Charnay, qui fait des recherches au Mexique, c'est une époque où on fait beaucoup de découvertes archéologiques au Mexique, eh bien, il trouve un petit jouet, en effet, avec quatre petits trous à côté de ce petit jouet. Alors, il manque évidemment les petits essieux qui étaient en bois, mais il n'y a aucun doute, puisqu'on voit bien les trous, si vous voulez, qui permettent de mettre les essieux, et donc on voit bien les quatre trous à côté du jouet. Bon. Alors évidemment, on est en 1880, il est toujours possible, on va dire, de rouler un explorateur en lui faisant croire que c'est un objet préhispanique, alors qu'en fait, pas du tout. Bon, voilà. Donc on peut avoir le doute, sauf que tout au long du XXe siècle, on a trouvé beaucoup d'autres objets similaires un peu partout au Mexique et au Salvador, et puis surtout, on a fini par pouvoir les dater avec le fameux carbone 14, et se rendre compte qu'en effet, tous ces objets sont préhispaniques. Donc on a la certitude, là, c'est absolument avéré, que ça soit au Mexique et aussi au Salvador, donc on va dire dans toute la zone de l'Amérique centrale, il y avait une connaissance parfaite, non seulement du mouvement rotatif, mais de la roue, de la capacité de l'homme à fabriquer un objet qui roule. Alors, c'est soit un jouet d'enfant, soit un petit objet rituel, si vous voulez, dans lequel on peut imaginer qu'on va faire avancer l'âme de la personne qui est morte lors d'un enterrement, etc. Évidemment, on ne le sait pas.
En tout donc, cas, on connaissait la roue, mais il ne s'en servait pas. Donc là, il y a un choix derrière.
En fait, il y a la roue en format réduit, mais l'homme, dans sa vie de tous les jours, n'a pas de véhicule à roue. Ça, c'est attesté aussi, puisque quand les Espagnols débarquent, il n'y a pas de véhicule à roue. Donc, on est obligé de repenser entièrement cette question-là. C'est-à-dire que ce n'est pas de se dire qu'ils n'avaient pas la roue, c'est plutôt qu'ils avaient décidé de ne pas utiliser la roue. Et là, évidemment, ça ouvre une question incroyable. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé, mais pourquoi ? Et alors, évidemment, là encore, on est dans le spéculatif.
Bien sûr.
J'ai évidemment, et je ne suis pas le premier, parce que c'est une question qui a agité beaucoup de gens, mais moi, j'ai pris le temps de reprendre tous les textes, si vous voulez, qui ont été écrits, notamment un fameux texte qu'ils appellent le Codex de Florence, qui a écrit juste après la conquête espagnole, où on fait parler des Aztèques encore dans leur langue d'origine, le Nahuatl, où on leur fait raconter, si vous voulez, ce qu'était leur civilisation. Et donc, j'ai espéré que peut-être ils allaient parler, évoquer pourquoi, parce qu'en effet, ils avaient des jouets à roulettes, pas à roue, mais sauf que, évidemment, les Espagnols n'ont pas pensé à leur poser la question dans ces années-là, donc on n'a pas de certitude. Alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a une philosophe qui propose une hypothèse, on va dire théologique, c'est-à-dire qu'en fait le mouvement rotatif, c'est le mouvement des dieux, c'est le mouvement supérieur à l'homme, c'est-à-dire que c'est le soleil qui se lève. Et que évidemment, dont à l'époque l'homme pense qu'il tourne autour de la Terre, et donc on n'a pas le droit, nous en tant qu'homme, d'utiliser ce mouvement rotatif. Seuls les dieux ont le droit de l'utiliser.
Et oui, c'est
alors
ça.
C'est intéressant comme hypothèse, c'est tout à fait valable. Moi, je vais un petit peu plus loin. Je dis, mais en fait, ça peut être une autre hypothèse. Ça peut être la fameuse phrase de Bartleby, la nouvelle de Melville, où il dit I would prefer not to. Je souhaiterais ne pas. C'est-à-dire, je souhaite ne pas. Je veux ne pas utiliser. Et en effet, si ça se trouve, et c'est mon hypothèse, les Aztèques perçoivent dès le début que la roue est un engin qui va faire trop, va entraîner trop loin, on va dire, la civilisation, leur civilisation, trop de mouvements, trop de transport, trop de déplacements. Et en fait, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie, ils sont dans cette zone qui est lacustre, donc ils ont des bateaux qui leur permettent de faire le transport à petite échelle, et ils n'ont pas besoin, et s'ils vont plus loin, ils vont plus loin, ils prennent le temps d'aller plus loin, ils n'ont pas besoin de transporter des matériaux, ils n'ont pas besoin de transporter des pièces d'or. Et j'oppose dans le livre l'esprit aztèque à l'esprit espagnol. Quand les Espagnols arrivent, ils sont obsédés par l'or, en fait. On oublie que les conquistadors, ce sont des gens d'une vulgarité incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est détrousser en fait le pays dans lequel ils arrivent. Donc ils cherchent partout de l'or, ils sont extrêmement déçus parce que finalement il n'y a pas autant d'or qu'ils voulaient dans l'Empire aztèque, ils en trouveront plus chez les Incas.
Mais finalement, selon vous, Raphaël Mel, ça va peut-être un peu ensemble, ou en tout cas aujourd'hui, ça peut nous questionner sur notre avidité, sur l'usage qu'on a fait de la roue, la rapidité, la possession, et qu'il y a peut-être possibilité de faire autrement. Avant de vous laisser continuer là-dessus, je propose un nouvel éclairage autour de la question: pourquoi réinventer finalement la roue aujourd'hui, ou l'usage qu'on en fait? Pourquoi repenser cet objet si simple et si génial? C'est l'éclairage du mathématicien Maurice Milgram, donc sur cet objet technique, mathématique et bien sûr politique qu'est la roue.
il connaissait la roue, mais uniquement pour fabriquer des jouets. Donc ça, c'est assez fascinant. Ça veut dire que la connaissance de la roue, c'est pas un problème uniquement technique et pas principalement technique. D'ailleurs, ce qui est important, c'est pas la roue en elle-même, mais le moyeu plutôt. C'est-à-dire quelque chose qui reste fixe dans quelque chose qui bouge. Donc ça, pour le mathématicien, c'est très intéressant. Notamment, on sait démontrer que n'importe quel corps en mouvement, il est forcément en mouvement autour d'un axe, il ne peut pas être en mouvement autour d'un point. Bon, ça, c'est de la mécanique rationnelle. Mais il y a beaucoup de choses dans la roue, c'est-à-dire que... Moi, j'avais tenté à un moment donné une analogie entre la pensée formelle et la pensée informelle. Je disais que la pensée formelle, c'était comme la roue. C'est-à-dire, ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais sur des chemins. C'est-à-dire, il y a une contrainte, il faut que ça soit du dur. Par contre, la pensée informelle, c'est comme la marche. On peut aller partout, dans les marais, quel que soit le sol, on peut marcher, on peut avancer. Et finalement, on parle souvent en logistique du dernier kilomètre, c'est-à-dire la livraison du dernier kilomètre. Et il y a un petit peu ça dans la pensée, c'est-à-dire que le formel, il y a des autoroutes, on peut aller très vite sur des très grandes distances, mais il reste toujours, pour accéder à l'humain, le dernier kilomètre, là, il faut marcher. Il faut abandonner la roue, parce que le sol, il n'est pas forcément, dans l'humain, n'en déplaise aux bureaucrates, le sol, il n'est pas aussi dur que ça, il n'est pas aussi bien préparé. Donc, il faut abandonner la roue, qui est extrêmement efficace. Pour moi, c'est le symbole de l'efficacité sous contrainte. C'est-à-dire, si on met des contraintes, que ce soit le rail, la route, etc., ça fonctionne très bien. Mais la nature n'est pas constituée de surfaces dures partout. Il y a du mou, il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a des marais. Et donc, il faut pouvoir être capable d'aller partout. Donc, il y a à la fois le côté métaphorique et le côté au premier degré qui est passionnant sur la roue. C'est un sujet passionnant, la roue.
Sujet passionnant qui nous entraîne bien loin, qui nous a entraîné bien loin, la roue, Raphaël Meltz, finalement.
Oui, moi je trouve que c'est extrêmement juste ce qu'il dit, cette opposition entre le formel et l'informel. Et pour moi, c'est l'opposition aussi aujourd'hui entre la voiture et le piéton. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire cette expérience de faire le même trajet, on va dire, de 2 km en voiture, puis de le faire à pied. Et la différence est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, en voiture, on ne sent rien, on ne sent pas les odeurs, on n'entend rien, on n'entend pas les bruits de la nature, on ne voit pas grand-chose parce que l'habitacle nous ferme quand même toute une partie de la visibilité. Et ensuite, on refait le même trajet et tout d'un coup, en fait, il y a des odeurs, il y a des lumières très, très variées, très, très nombreuses, il y a des bruits incroyables et on voit plein de petits détails qu'on n'avait pas vus parce qu'on allait trop vite avec la voiture. Et ça, c'est typiquement, en fait, ce que la roue a posé comme problème à l'homme, c'est-à-dire il lui a donné l'illusion que l'efficacité devait l'emporter sur tout le reste. Et on voit que pendant plusieurs siècles, cette efficacité, ce triomphe, on va dire, de la technologie nous a emmenés très loin. C'est-à-dire que ça a été la révolution industrielle, ça a été le XXe siècle dans ces délires de puissance jusqu'à, évidemment, la bombe atomique qui a été de dire, ben voilà, maintenant on va être aussi capable de détruire, en fait, la planète avec presque rien. Et c'est vrai que maintenant, on est en train d'arriver, alors c'est drôle parce que mon livre est sorti juste avant la crise du coronavirus. Et on peut se dire que justement cette crise nous amène à réfléchir. En effet, on est allé trop loin, on a voulu aller trop loin, on a voulu aller trop vite aussi. Et en fait, pourquoi, à quoi bon en fait cette course si on ne sait plus ce que c'est que le sens de la vie?
C'est ça, si on ne sait plus où on va et pourquoi on va si vite. Alors serait-il temps de s'arrêter pour réinventer la roue? Allez, on continue de s'interroger au son d'une autre roue, celle de la vieille la roue de Guilhem Desque, qui la joue carrément électro. La vieille la roue, ça s'appelle Vision, Guillaume Desque sur RFI. Ça déménage, la vieille roue électro de Guilhem Desk sur RFI, qui lui aussi, un peu comme vous, hein, Raphaël Metz, nous invite finalement à réinventer la roue, à la faire sonner autrement. S'agit-il d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, comme vous venez de le dire, sans même se poser la question du sens? Écoutez ce qu'en dit le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond, également grand empêcheur de penser en rond les sciences et les techniques, justement.
Cette question, tout à fait légitime, se pose dans un cadre beaucoup plus général, c'est-à-dire c'est la question du lien entre le progrès technique et le développement socio-économique. Le progrès technique ne va pas de soi, toutes les inventions ne sont pas possibles à un moment donné, et peut-être que nous devrions nous poser la question de savoir ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est dominé par un certain nombre de grandes sociétés techniques, industrielles, non seulement d'un côté ce que ça nous apporte, mais peut-être aussi ce que cela nous empêche d'inventer.
Raphaël Metz, qu'est-ce que la roue finalement nous empêche ou nous a empêché d'inventer ?
Ben justement, je pense que ça nous a empêché d'inventer ce qu'aujourd'hui on a l'air de réinventer à grande vitesse, et c'est tant mieux. C'est-à-dire, par exemple, typiquement la notion du circuit court. À partir du moment où on pouvait, avec un camion, importer des fraises à 3000 km de là en 24 heures, ben, il n'y a pas tellement de raisons de se poser la question si on va manger des fruits de saison ou pas des fruits de saison. Donc c'est typiquement ce genre de progrès, entre guillemets, dont les effets néfastes ne sont jamais mesurés. Vous savez, c'est exactement comme quand on dit que quand on mesure le PIB d'un pays, on va mesurer par exemple la production d'armes, ça va faire monter les points de PIB, ou alors en effet plus on va consommer du pétrole, plus le PIB va augmenter dans un pays, sauf qu'en fait plus on aura fait du mal à la planète. Donc c'est typiquement ce genre de questions où on ne pose jamais que celle de l'intérêt et jamais celle du désintérêt, ou qu'on posait, parce qu'en effet j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a l'air de tout d'un coup s'autoriser à poser des questions. Donc si vous voulez, mon livre qui il y a quelques semaines aurait pu apparaître comme presque un peu provocateur, parce que j'osais dire que tout progrès n'était pas forcément une fin en soi, tout d'un coup j'ai l'impression qu'il devient beaucoup plus audible, parce qu'on se rend compte qu'en effet, et typiquement on l'a vu dans ces temps de confinement où les bagnoles ne servaient plus à rien, où on faisait plus qu'un kilomètre à pied autour de chez soi, et bien on a bien vu qu'on se passait très très bien de roue, et alors on s'en passait pas complètement, mais on s'en passait quand même très majoritairement.
C'est vrai que votre livre il résonne autrement aujourd'hui, parce qu'effectivement on est obligé d'inventer, et du coup on se penche aussi, alors dans votre livre comme ailleurs, sur des moments où on a failli inventer. C'est-à-dire, je pense par exemple à cet aérotrain là, le monorail de Jean Bertin. On a failli inventer, on aurait pu inventer d'autres choses autrement que la roue, autrement pour aller toujours plus vite de la même manière, et puis ça s'est pas fait. Est-ce qu'aujourd'hui il est enfin temps de réinventer la roue?
Écoutez, de la réinventer, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il faut inventer une autre roue, c'est-à-dire qu'il faut prendre cet objet. Je trouve que c'est très intéressant ce que dit Lévy-Leblond, en disant, est-ce que toute invention, on doit s'en servir? Je parlais tout à l'heure de la bombe atomique, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un se rend compte qu'en fait, il peut, par une réaction en chaîne, faire un explosif tellement puissant qu'il peut détruire un pays entier, est-ce qu'il a raison vraiment d'aller au bout et de, comme Joliot Curie l'a fait en 1939, de déposer un brevet parce qu'il pense que ça fait une bonne invention derrière. Il faut faire attention, c'est-à-dire que le progrès technologique, c'est un peu comme le clonage, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où en fait on sait qu'on va pouvoir cloner les individus. Est-ce que pour autant il faut le faire ? C'est pas parce qu'on a la possibilité d'utiliser quelque chose qu'il faut s'en servir. Et c'est ça, à mon sens, ce qu'ont pu nous dire les Aztèques, c'est-à-dire que ils avaient peut-être la possibilité de le faire, mais ils pouvaient s'en passer. Et en fait, en s'en passant, ils ont fait une société qui était plus harmonieuse que la nôtre, qui était plus ritualisée, qui était plus centrée sur l'idée du bienfait qu'a l'homme dans son rapport à la nature, et pas simplement justement dans celle du pré-capitalisme, hein, qui est celle des conquistadors, qui sont dans l'idée de l'accroissement de la richesse.
Et oui, si on refaisait l'histoire, hein, et si les Aztèques et non pas la roue et l'or des conquistadors avaient conquis le monde. En tout cas, il y a quand même eu, grâce à la roue, une invention magnifique qui s'est développée, alors récemment, hein, depuis le 19e siècle. Ce sont les deux roues, hein, le vélocipède, le vélo, qui nous réconcilierait bien avec une autre manière de se hâter lentement et d'avancer dans la vie, juste pour le plaisir. On écoute la danse des cyclistes, version burkinabé, DJ Nicolo, encore une de vos trouvailles musicales, Raphaël Meltz, décidément en roue libre sur RFI. DJ Nicolo, Burkina Faso, vous nous écoutez, chers amis auditeurs, à Ouagadougou sur 94.fm.
Ok, ça va pisser, c'est un point DJ Nicolo, avec la danse des cyclistes. Prends ton vélo, j'ai dit prends ton vélo, c'est la danse des cyclistes. Prends ton vélo, j'ai dit prends ton vélo, c'est la danse des cyclistes. DJ Nicolo, de retour encore, avec son nouveau concept, appelez le pédaler, pédaler.
L'événement qui marque le Burkina Faso, le pédaler, pédaler, la danse des
Le pédaler, pédaler de DJ Nicolo qui pédale hein, de Ouaga jusqu'à Bobo, c'est votre choix hein, sur RFI Raphaël Meltz. Et on vous en remercie, alors je ne résiste pas non plus à faire entendre à nos amis auditeurs une archive réjouissante et visionnaire que vous nous avez passée. Qui date de 1973, ou plutôt de l'an 1, extrait du film de Jacques Doyon, inspiré par la bande dessinée L'an 1 de GB, carrément visionnaire. En 1973, il nous proposait d'arrêter tout, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste, et tout ça on le fait avec la petite reine, proposait-il. Des vélos, pas d'auto, manif à vélo en 1973 déjà, sauf que cette utopie-là n'a pas été entendue, Raphaël Meltz. Alors on serait plus prêt à le faire aujourd'hui. On a l'impression qu'on pourrait avoir ce même son dans la rue aujourd'hui.
Oui, il faudrait. En fait, c'est une partie de mon livre où justement je le fais comme une espèce de sous-histoire politique. Et cette fois, en opposant, ou plutôt en regardant la trajectoire de ces deux véhicules, d'un côté l'automobile, de l'autre côté le vélo, qui ont en fait le même âge, hein, qui sont nés à la fin du 19e siècle, pour le dire rapidement. Et c'est assez intéressant de voir la façon dont ces deux trajectoires se sont croisées, notamment parce que donc la voiture au début c'est un objet réservé aux très riches, et à l'inverse le vélo c'est l'objet populaire par excellence, c'est un vrai moyen de transport. On oublie, mais c'est dans les années 30, j'ai fait des recherches sur des archives, dans les années 30 le nombre de bicyclettes en France est je crois 4 ou 5 fois supérieur au nombre d'automobiles, et surtout on voit des sorties d'usines par exemple où tout le monde est à vélo, il y a un nombre incroyable de vélos. Donc le vélo, c'est l'objet de la conquête, on va dire, par des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, de la possibilité justement d'agrandir leur espace. Et c'est aussi pour des femmes, la possibilité pour les femmes, dès la fin du 19e et au début du 20e, justement de sortir de leur foyer sans avoir d'autres moyens, justement, puisqu'en fait le vélo, on le propulse par soi-même. C'est l'objet ultime, puisqu'il est à la fois complètement écologique, hein, il ne pollue pas du tout, et il ne nécessite pas d'autres carburants que l'homme lui-même. Et c'est vrai qu'il y a eu ce retournement, on va dire, de l'après-Seconde Guerre mondiale, où tout à coup, eh bien, la voiture se développe énormément et la bicyclette semble reléguée aux oubliettes, ou plus exactement, c'est quelque chose qu'on a vu à la fin du XXe siècle, le vélo, ça devient l'outil des bobos. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, quelque chose d'assez perturbant, où en fait, la voiture est maintenant l'outil du pauvre entre guillemets, mais des gens qui ont moins de moyens, on va dire, qui se retrouvent étranglés parce que le carburant est trop élevé. Et de l'autre côté, on voit les urbains triomphants, donc les 10 bobos, sur leur bicyclette. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est que, attention, on s'est trompé, en fait, en créant cette opposition. C'est-à-dire qu'en fait, la bicyclette devrait être un objet, justement, transclasse. C'est-à-dire que c'est l'objet qui, justement, peut réunir à la fois la personne qui n'a pas forcément énormément d'argent et qui fera beaucoup d'économies, justement, en prenant son vélo plutôt que sa voiture, pour des trajets, même des trajets qui font entre 10 et 20 km, hein, dans les zones rurales ou périurbaines. Et en même temps, en effet, ça fait beaucoup de bien à la planète, ça fait beaucoup de bien à la nature, parce qu'on pollue moins aussi de façon sonore avec la voiture. Donc il faut repenser entièrement la place du vélo et en ville et à la campagne. Et là encore, en effet, cette crise du Covid a permis de mettre en avant l'idée qu'en vélo, en fait, on pouvait éviter les transports en commun, et en même temps, on pouvait faire du sport. Après 2 mois, on était un tout petit peu privé de sport, donc je pense beaucoup de gens sont contents de retrouver de la bicyclette.
Mais oui, au fond, c'est presque tout bénef, mais c'est un choix, là encore, c'est bien pour ça que c'est politique. Voilà. C'est un choix de dire on peut très bien utiliser la voiture et elle va nous servir encore, c'est pas la question, mais finalement, on peut choisir le vélo, et c'est un autre choix de société, un autre monde, c'est ça. En même temps,
Une fois, il faut faire tous les calculs, parce que je prends l'exemple d'un chercheur qui montre qu'en fait, quelqu'un qui fait du vélo tous les jours, pendant une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour, gagne 2 années d'espérance de vie. Et c'est énorme, en fait, si on réfléchit, 2 années d'espérance de vie. Mais ce sont des calculs qu'on ne prend jamais en compte. On dit toujours, mais il va perdre un peu de temps parce que s'il y allait en bagnole, il irait plus vite au travail. Et oui, sauf qu'en fait, dans sa voiture, on grossit. Et en fait, on développe des maladies cardiovasculaires qu'on évite en faisant du vélo. Oui. Donc là encore, il faut prendre l'ensemble des choses. Et c'est vrai que le confort, on va dire, la pensée technologique du XXe siècle a mis de côté plein de choses essentielles qu'on est en train de redécouvrir maintenant.
J'ai envie de vous poser une dernière question. Elle est soulevée par un de mes collègues de Science et Avenir, Mathieu Novak.
Dans la plupart des films de science-fiction, on vole, on se téléporte. En tout cas, on fait de moins en moins appel à la roue. Est-ce que vous pensez que la vision du futur, c'est un futur sans roue ?
À part les deux roues, hein, à part le vélo, Raphaël Metz, est-ce que notre futur, il serait pas sans roues ou à chercher ailleurs autrement ?
Et je raconte dans mon livre une anecdote d'un chercheur qui raconte qu'il rencontre des ingénieurs chez Michelin à la fin des années 70, après la sortie du premier épisode de Star Wars. Mmh. Et en fait, ils sont catastrophés chez Michelin parce qu'ils se rendent compte que dans Star Wars, il n'y a plus aucune roue, tous les véhicules sont volants. Et c'est ce que dit là très bien ce journaliste. Mais c'est-à-dire que ça génère beaucoup d'angoisse pour les fabricants de pneus. S'ils disent, si la roue disparaît, si elle n'est pas dans les films de science-fiction, ça veut dire que notre avenir sera sans roue. Et qu'est-ce qu'on va faire nous de notre métier. Alors est-ce que le monde de demain sera sans roue ? Est-ce qu'on arrivera à la fameuse télétransportation ?
C'est ça dont parle Elon Musk aussi.
Ou le fantasme en effet de l'hyperloop qui nous fait aller à 1200 km/h dans des tubes sous vide avec avec des écrans qui diffusent qu'on ne voit pas parce qu'on est dans un tube invisible. Et il faut faire attention, c'est-à-dire que là encore c'est toujours le fantasme d'être dans un autre endroit que là où on est. Il faut déjà être arrivé, mais attendez, en fait, on a le droit de prendre le temps d'aller d'un endroit A à un endroit B. On n'est pas obligé d'y arriver si vite.
Et c'est peut-être même le chemin lui-même qui est plus intéressant que l'arrivée, hein, pour conclure, parce que c'est passionnant, votre histoire politique de la roue, Raphaël Metz, mais on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie en tout cas d'avoir été en direct avec nous par téléphone. On entendait parfois le vent et parfois même les petits oiseaux. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage indispensable et passionnant qui change notre regard et nous ouvre d'autres perspectives. Histoire politique de la roue est paru à la librairie Vuibert, et c'est une formidable invitation finalement à nous hâter lentement pour nous mettre enfin à rouler à notre rythme et dans le bon sens. À bientôt, Raphaël Metz.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à nous podcaster à volonté. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, autour du corail, un drôle d'animal qui est aussi végétal et minéral, un trésor et un écosystème à protéger, évidemment, et d'abord à mieux connaître, plongé dans l'océan Indien, au plus près des récifs coralliens, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure de retrouver les informations.